Père Grégoire, bonjour.
Oui, bonjour Père Mathieu.
Merci beaucoup d'être avec nous
Oui.
aujourd'hui sur Radio Maria France. Nous sommes en direct et nous avons 20 minutes pour vivre ce moment ensemble. Et je vous laisse la parole, Père Grégoire, peut-être vous présenter tout d'abord
Très bien.
brièvement et
Très bien.
ensuite. Peut-être raconter un petit peu des choses, comment Jésus est entré dans votre vie, ce que Jésus a fait dans votre vie, etc. Je vous laisserai la parole volontiers.
Très bien.
C'est à vous, Père Grégoire. Je vous laisse vous présenter rapidement.
Merci. Oui, alors c'est une grande joie pour moi de partager avec vous d'abord et avant tout les merveilles que Jésus-Christ a réalisées et continue de réaliser en moi. Donc je suis prêtre depuis 2006, donc je suis né en 71, donc j'ai 49 ans. Je suis prêtre en paroisse pour le diocèse de Luçon, dans cette belle région de la Vendée. Et voilà, que j'ai rejoint en 2011.
Et comment Jésus est entré dans votre vie, Père Grégoire?
Alors, voilà. Pour comprendre d'abord comment Jésus est entré dans ma vie, je pense qu'il est important que je remonte à la préhistoire de ce jour. Car oui, effectivement, il y a bien un jour où j'ai pu dire, Jésus est vivant, il est mort et ressuscité pour moi, et il m'appelle à être un membre vivant de son corps et l'Église. Et ce jour de la rencontre personnel avec Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, ce Messie crucifié à jamais vivant, ce fameux jour qui a sans aucun doute constitué le tournant majeur de ma vie, il est le fruit de toute l'histoire qui l'a précédé. Et parmi cette suite d'événements préhistoriques, du début de mon histoire sainte comme alliance personnelle entre moi et Jésus, je commence en précisant quelques éléments du contexte familial. Je suis donc né en 1971 à Nancy, en Lorraine, avec un père d'origine vendéenne et une mère lorraine. Donc, ils étaient mariés depuis 6 ans et ils avaient déjà accueilli 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'étais donc leur 4e enfant et je fus baptisé à un peu plus de 3 mois. Un peu plus d'1 an après ma naissance, mes parents se sont séparés et ma mère eut un 5e enfant 3 ans après ma naissance avec un autre homme. Le contexte familial dans lequel j'ai grandi a donc été quasiment toujours marqué par un profond déséquilibre et une certaine précarité économique. De ces premières années, j'ai surtout des souvenirs de scènes familiales assez violentes et déchirantes. Durant ce temps, j'étais scolarisé dans la principale école privée catholique de Nancy, tenue par les jésuites, même si ma mère ne nous amenait pas à la messe le dimanche. Dès le primaire, j'étais un enfant assez agité, et je faisais souvent remarquer un tempérament impulsif qui m'a valu souvent d'être puni. Ma mère étant célibataire avec 5 enfants et reprenant des études pour travailler, m'a envoyé vivre à l'âge de 10 ans chez sa mère, donc ma grand-mère, déjà veuve avant ma naissance. Et finalement, je suis resté 5 ans seul chez ma grand-mère, du CM2 jusqu'à la fin du collège en troisième. Ces années à la campagne ont été sans doute plus calmes sur le plan familial, mais je me sentais profondément abandonné, exclu de la fratrie. La blessure du divorce de mes parents, renforcée par ce long moment de solitude, s'est manifestée extérieurement par une forte tendance à la boulimie. Je tentais de combler moi-même le vide dans mon cœur en me remplissant de nourriture. En plus, mon estime de moi-même était tellement basse que je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. Je souffrais d'un bégaiement très fort. J'avais de bons résultats à l'école, même si je continuais à être un élève agité. Ma tête fonctionnait donc plutôt bien, mais j'étais constamment frustré de ne pas pouvoir m'exprimer dans une double situation humiliante, celle d'être en surpoids et celle d'être bègue. Il faut noter que durant ces 5 ans chez ma grand-mère, j'allais à la messe tous les dimanches, car ma grand-mère y allait. Pourtant, je ne l'ai jamais vue prier à la maison, même si elle bénissait le pain d'un signe de croix très discret avec le couteau. Je n'avais donc pas appris à prier personnellement, ni à l'église, ni à la maison. J'ai rejoint mes frères et sœurs en rentrant au lycée à Nancy. C'était un lycée public et je n'allais pas à la messe car personne n'y allait. Je me sentais profondément étranger dans ma propre famille et plus que tout, étranger en moi-même. Après le bac, j'ai étudié 2 ans en classe préparatoire avant de rentrer dans une école d'ingénieurs à Orléans. À la fin de la première année en école d'ingénieurs, à l'âge de 21 ans, le vide existentiel en moi était très important, malgré les faits étudiantes que j'avais pu multiplier à outrance durant cette année. Je ne croyais pas pouvoir être aimé profondément et d'aimer moi-même, même si je continuais secrètement à espérer. Voilà donc les points principaux de la préhistoire. Entrons maintenant dans le contexte immédiat de ma rencontre avec Jésus. J'avais décroché un stage en juin et juillet 1992, à l'âge de 21 ans donc, à la fin de la première année d'école d'ingénieur dans une usine d'armement à Romorantin. Il fallait trouver un logement pour ces 2 mois. Par l'intermédiaire de ma tante, la responsable du groupe de prière charismatique de Romorantin a accepté de me trouver ce logement. Je me souviens très bien de la première rencontre avec cette femme. Je sonne à sa porte. Dès qu'elle ouvre, je sens une personne très chaleureuse. Elle me présente ses 5 enfants. 2 noirs, 2 jaunes et 1 blanche. Avec son mari, ne pouvant pas avoir d'enfants, elle avait adopté ces 5-là, 2 d'Afrique, 2 d'Inde et 1 de France. La maison était petite, les enfants dormaient à 2 ou 3 par chambre. Et pourtant, il y avait une pièce réservée pour la prière. En discutant autour d'un café dans la petite cuisine avec cette femme, elle me dit très simplement « Vous vous doutez bien que ce n'est pas toujours facile la vie en famille avec ses enfants qui ont vécu un passé assez troublé. » Mais grâce à Jésus, nous vivons en paix les uns avec les autres. Cette paix-là, je l'avais bien sentie en entrant dans cette maison. Paix dont j'avais tant souffert l'absence dans ma propre famille. Dans le secret de ma conscience, j'ai donc lancé un défi à ce Jésus dont cette femme me parlait. Grosso modo, j'ai formulé ce défi intérieurement en disant « Si tu existes et que c'est toi qui fais cela dans cette famille, je te donne 2 mois pour te manifester. » Lancer un tel défi à ce Jésus inconnu impliquait en conscience que j'y mette un peu du mien pour faciliter cette rencontre. J'ai donc suivi cette famille à la messe le dimanche suivant. Expérience décevante que je ne voulais pas réitérer le dimanche d'après. Puis, j'ai accompagné cette mère de famille à son groupe de prière le mercredi soir suivant. C'était la première fois que je voyais des gens parler à Dieu directement, avec leurs propres mots, comme si Dieu se tenait là devant eux. Et je percevais une profonde paix et une grande joie sur leur visage. C'était suffisant pour que je me mette à les imiter. J'y suis donc allé le mercredi suivant en m'ouvrant davantage au silence, au chant de louange, à l'écoute de la parole de Dieu. Ce fut à la 3e rencontre, précisément le mercredi 24 juin 1992, jour de la Saint-Jean-Baptiste, qu'en moi s'est révélée cette présence infinie d'amour et de paix, la présence de Jésus mort et ressuscité pour moi. Dans cette présence, jaillissant en moi comme une source plus profonde de ma conscience, là où personne d'autre que Dieu ne peut entrer, j'ai alors entendu intérieurement ces mots qui n'étaient pas de moi, « Je t'aime comme tu es ». À ce moment-là, je savais que ma vie avait radicalement changé. L'amour que j'avais cherché désespérément jusque-là à l'extérieur de moi se trouvait là, au-dedans, dans une communion avec le Dieu d'amour. Juste une anecdote pour montrer la profondeur humaine de cette rencontre personnelle et son impact immédiat. J'avais à cette époque des magazines que l'on pourrait dire légers, comme les ancêtres plus soft des sites internet de pornographie. En rentrant ce soir-là, je les ai mis à la poubelle en ayant bien conscience que désormais, je n'aurais plus besoin de ces faux substituts à l'amour. Seul l'amour de communion accueilli en mon cœur était capable d'opérer un tel changement humain profond. Certainement pas la peur du jugement ou la menace de la condamnation. Voilà pour la façon dont j'ai rencontré Jésus.
Magnifique, Père. Merci beaucoup. J'en suis très touché. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent aussi. Merci beaucoup. Je t'aime tel que tu es. Et je vous laisse poursuivre, Père, parce que vous êtes bien lancé. Allez-y, qu'est-ce que...
Alors, dans un deuxième temps, donc voilà, je voudrais juste témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Jésus ne m'a en fait jamais lâché. Il a toujours marché avec moi Donc, depuis ces 21 ans, en m'encourageant toujours à élargir l'espace de mon cœur pour vivre une communion plus grande et plus intense avec Dieu et avec mon prochain. À la rentrée scolaire, suite à ma conversion durant l'été, entrant en deuxième année d'école d'ingénieur, je savais déjà que je ne pouvais pas continuer les mêmes fréquentations. J'étais encore trop faible pour résister aux tentations de ces soirées étudiantes. Le renoncement ne fut pas facile, mais je savais que je le faisais pour un amour plus grand et plus authentique. Je me suis raccroché au groupe de prière charismatique du coin pour établir de nouvelles amitiés plus saines. Et dès le mois d'octobre 1992, pardon, un peu plus de 3 mois après ma conversion radicale, durant la prière en ce groupe, quelqu'un se met à lire à voix haute l'évangile du jeune homme riche. Il demande à Jésus: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Après avoir rappelé que seul Dieu est bon et qu'il faut suivre le chemin tracé par les 10 commandements, Jésus l'aima et lui dit: Une seule chose te fait encore défaut, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. En entendant ces mots, contrairement à l'homme de l'évangile, j'eus le cœur littéralement transpercé comme par une flèche brûlante qui m'embrasa du feu de l'amour. Je rentrai ensuite chez moi ce même soir, encore tout embrasé de ce même feu, et me mis solennellement au pied de mon lit devant un crucifix pour répondre à Jésus que j'étais prêt à le suivre partout où il voudrait, en laissant tous mes biens derrière moi. Je découvrais alors une liberté intérieure immense, jamais expérimentée auparavant. Tout était vraiment possible avec Dieu m'appelant ainsi. J'étais prêt à me marier, à devenir moine, devenir prêtre, à mendier mon pain, à fonder une entreprise, etc. La seule chose que je demandais à Jésus était de ne jamais me lâcher. Car rien n'est impossible à Dieu, répondit l'ange à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. J'avais donné mon fiat le plus total que je pouvais ce soir-là. Et le fruit d'une telle libération intérieure, d'un tel embrasement du feu de l'Esprit Saint, n'ont pas tardé à se révéler. Je suis allé quelques jours après à ma première retraite spirituelle d'un week-end, fin octobre, à la maison de Béthanie de la communauté des Béatitudes. L'évidence s'est faite petit à petit, en y retournant tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, que c'était la nouvelle famille que Dieu m'offrait pour continuer à croître en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela est essentiel aujourd'hui à souligner. Quels que soient les dysfonctionnements familiaux que l'on peut avoir vécu et donc les blessures profondes sur notre identité, Dieu nous reconstruit de l'intérieur en nous donnant une nouvelle famille dans son Église. Cela ne se fait pas en quelques jours ni en quelques mois. Pour moi, ce fut particulièrement lent. Cela a pris des années avec des moments de régression, mais il est fidèle, celui qui m'a appelé à partager avec lui la vie éternelle dans la sainteté. Dans ce cadre familial de la communauté des Béatitudes, je me suis donc refait une formation humaine par la vie communautaire centrée sur l'Eucharistie, la vie fraternelle et la mission évangélique, avant de commencer le séminaire à 27 ans. Mon cheminement en communauté vers la prêtrise n'a pas été tout lisse, car j'avais un caractère qui s'est évangélisé petit à petit. Le bégaiement, par exemple, ne s'est pas évanoui comme par enchantement. J'ai eu des moments de doute, de révolte, de tentation dans le désert où je me suis senti cruellement abandonné par Dieu. Et c'est là que j'ai pu à chaque fois compter sur le don de l'Église à travers les sacrements, notamment la confession régulière et l'Eucharistie, véritable soleil de l'amour devant lequel je me suis exposé tous les jours de longs moments. Ordonné prêtre le 4 août 2006, fête du Saint-Curéla, j'ai vécu des joies intenses, toujours préparées par le déchirement de quitter son espace de confort. En vivant les 5 premières années du sacerdoce ministériel, d'abord au Pérou, 1 an, puis à Denver, dans le Colorado, 4 ans. Je ne pourrais pas exprimer le degré intense de joie d'être prêtre pour un peuple de fidèles qui ont soif de Dieu et qui valorise à sa juste mesure, qui est divine et avant tout eucharistique, le ministère du prêtre. Ces joies m'ont préparé à affronter la nouvelle expérience vécue dans le diocèse de Vendée depuis 2011. dois bien vous avouer que le choc fut dur après mes années paroissiales et missionnaires intenses en Amérique. Il a fallu dans un premier temps que je ne me décourage pas, que je ne baisse pas les bras devant les ravages d'une idéologie suicidaire de l'Église sans prêtre, malheureusement très présente dans les milieux formés par l'Action catholique en France. Idéologie dont j'ai eu à souffrir notamment par la disparition quasi totale de la demande du sacrement de la confession, accompagnée par une conception réductrice de l'Eucharistie et d'une liturgie misérabiliste vécue comme un rassemblement social pour une communion horizontale d'un vivre ensemble qui a oublié pour une grande part la primauté de Dieu et l'intensité exigeante de son amour transformant. Dans ce contexte nouveau, j'ai pu constater dans mes expériences en paroisse, au Sable d'Olonne, à Chavagne-en-Payé et à Noirmoutier, que les querelles de clochers fleurissent abondamment sur ce terreau idéologique et que la communion, que ce soit entre prêtres ou entre laïcs, se réduit très vite à un copinage qui ne forme pas de fruit pour le royaume de Dieu, malgré les beaux discours sur la fraternité et l'ouverture à l'étranger. Heureusement pour moi, je ne me suis pas enfermé dans le pessimisme d'une situation ecclésiale en grande souffrance, en jetant la pierre aux autres. Constamment nourri par l'Eucharistie et l'adoration eucharistique, soutenu par la prière de l'Église et du chapelet, je me remettais constamment sur le chemin de la conversion et du pardon. Mon tempérament extraverti m'a aidé à découvrir et à prendre exemple aussi des familles, de petites gens héroïques dans leur combat pour vivre et nourrir une foi authentique de plus en plus à contre-courant d'une société sans Dieu. Voilà, j'allais dire ce que Jésus a fait pour moi. Je pourrais peut-être, en conclusion brève, dire comment je vis avec Jésus aujourd'hui.
Voilà, oui, tout à fait. Et parce qu'il
Très
nous
bien.
Reste, il nous reste
je crois
2 minutes.
Il me reste combien de temps ?
2 minutes.
Très bien. Eh ben, aujourd'hui, je vis avec Jésus en partageant toujours plus profondément son grand désir d'apporter un feu sur la terre. Je reçois avec une grande espérance la promesse d'une nouvelle évangélisation. Je sais que pour garder ce feu allumé, je dois vivre une fraternité effective et affective tournée vers la mission d'annoncer le royaume de Dieu. Ainsi, mon cœur de pasteur se ressource aujourd'hui en contact de mes frères prêtres au sein de la compagnie Saint-Jean-Paul II, une compagnie fondée par l'ancien évêque de Vendée, Mgr Castet, qui regroupe actuellement 6 prêtres de mon diocèse. Elle a pour horizon les figures de sainteté de Saint-Jean-Paul II, de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, 2 grands amis de Jésus et de Marie, qui ont puissamment participé au renouvellement de la mission d'une église familiale en paroisse. Je travaille concrètement à promouvoir une pastorale intégrale sur le modèle d'une pastorale familiale en église, pastorale intégrale et non fragmentée, pour une église familiale en croissance. J'ai beaucoup appris en vivant en Amérique la mise en place du chemin intégral de nouvelle évangélisation. J'ai eu la joie de le lancer concrètement dans la paroisse de Noirmoutier. J'essaie aussi de promouvoir son lancement dans la paroisse Saint-Paul à La Roche-sur-Yon où je suis actuellement. Je finis ce témoignage par cette conviction enracinée dans la sagesse du Messie crucifié, sauveur du monde. Là où est ta blessure, là est ta rédemption et ta mission. D'une expérience familiale initialement chaotique, Dieu m'appelle sans cesse à cette tâche extraordinaire et merveilleuse de participer avec lui dans le don de l'Esprit Saint à la construction d'une église famille pour donner naissance et faire croître des disciples missionnaires de Jésus-Christ, toujours plus nombreux. Que son nom soit béni à jamais.
Amen. Merci beaucoup, Père Grégoire. J'aurai plein de questions, j'imagine que les auditeurs aussi, mais le format est ce qu'il est, 20 minutes. Mais cela m'a beaucoup touché et je suis sûr a touché les cœurs de ceux et celles qui nous écoutent. Témoignage que nous pourrons écouter d'ailleurs dans quelques jours, la semaine prochaine, en podcast sur le site de Radio Maria France. Un grand merci en tout cas pour votre magnifique témoignage. Merci Jésus, vraiment, Dieu est grand.
Exactement.
Et vraiment que le Seigneur continue à faire des merveilles à travers vous. Cher frère,
merci.
Peut-être, je vous demanderai juste peut-être de bénir ceux et celles qui nous écoutent. C'est toujours bon, une bénédiction d'un prêtre pour chacun. Amen. Je vous laisse bénir les auditeurs et je vous remercie.
Merci. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
Bien que le Dieu riche en miséricorde, abondant en vie, eh bien bénisse toutes les personnes qui peuvent écouter maintenant et qu'il les remplisse maintenant dans leur cœur, dans leur vie, de cette lumière, de cette espérance toujours nouvelle par son Fils et Jésus-Christ, par la croix, du Christ, qui est la victoire sur tout péché, sur tout mal, sur toute mort, qu'il multiplie donc en chacun de vous le don de sa vie, le don de son amour, pour que vous soyez chacun là où vous êtes, des disciples missionnaires pour son Église et dans son Église. Amen.
Amen. Merci, cher Père. En
Merci à
commune
vous.
en prière, à une prochaine fois. Un grand
Au
merci.
revoir.
Au revoir.
Au revoir.